Nous sommes très, très reconnaissants au Seigneur pour ce qu'il fait. En beaucoup, pas seulement ici, mais dans le monde entier. Nous sommes tristes pour tous ceux qui passent dans l'éternité sans le Seigneur. Je pense ici au dernier dimanche à Zurich, lorsqu'une grand-mère a porté une requête de prière devant pour sa nièce de 19 ans. La nièce était déjà dans le coma à 19 ans d'une maladie incurable qu'il ne faut pas toujours appeler par son nom. Mais cette grand-mère était tellement désespérée. Et elle demandait au moins qu'elle ne périsse pas, même si elle soit rappelée à la maison, qu'elle soit au moins sauvée. Et maintenant, on nous a appelés pour nous dire qu'elle est rentrée à la maison en paix. Nous en sommes reconnaissants, nous sommes également reconnaissants à Dieu. Donc, elle est morte en paix. J'aurais préféré que nous puissions y aller et prier, mais la mère, sa propre mère, avait interdit à tout croyant de venir. Et ce genre de choses nous rendent très tristes. Surtout lorsque nous pensons à l'éternité, où rien, mais alors rien ne pourra être réparé. De la même manière, tel que l'homme meurt, il comparaîtra dans cette condition devant le tribunal. Et vous savez, tel de la manière avec laquelle il vit, c'est comme ça qu'il meurt aussi. Celui qui vit sans Dieu meurt sans Dieu. Il ne faut pas poursuivre ses pensées jusqu'au bout, car elles sont simplement trop terribles. Penser à ce que des hommes seront séparés de Dieu pour toujours. Nous sommes aussi reconnaissants au Seigneur pour tous les témoignages glorieux, pour ce qu'il fait, pour tous ceux qui sont prêts à recevoir la parole. J'ai ensuite des salutations à transmettre de la Roumanie à toutes. Ensuite, j'ai appris qu'un certain nombre de personnes souhaitent se faire baptiser selon la Bible. Nous en sommes également reconnaissants à Dieu. Cela me rappelle ce que notre chère sœur de la Sarre a dit ce matin à certains d'entre nous et à d'autres. Elle est assise là à ma gauche, à votre droite, presque au fond, la tête grisonnante. Et cela fait plus de 30 ans qu'elle a vu un arbre immense comme un arbre de vie, mais il était clôturé et alors des gens de toutes les couleurs de peau sont venus de toutes les directions, ont franchi la clôture et chacun a pris une branche de cet arbre et la branche est devenue un drapeau. Et quelque part, quelque chose d'inexplicable a commencé. Et j'ai dit pour moi, c'est clair. Dieu appelle de toutes les langues, de tous les peuples, de toutes les nations, de toutes les couleurs de peau et de toutes les races. Nous n'avons tous qu'un seul Créateur et c'est le Dieu vivant. Et le Dieu vivant s'est révélé en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et tous ceux qui seront un jour dans la gloire sont le fruit de ce qui s'est passé à Golgotha. Pas un acte sacré, pas un curé qui fait quelque chose, ce n'est pas cela qui compte. Mais ce qui compte, c'est ce que Dieu a fait en Christ pour nous à Golgotha. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Je voudrais m'arrêter un instant sur ce que nous a dit le compositeur du cantique 307 dans ses dernières paroles. Je crois Dieu. Est-ce que vous remarquez la différence? Pas je crois en Dieu, mais je crois Dieu. Abraham croyait Dieu, a cru Dieu, et cela lui a été compté comme justice. Beaucoup croient en Dieu, et aussi le diable, et il tremble. Mais Dieu cherche des gens qui le croient, qui croient ce qu'il a dit, qui ont du respect pour sa parole. Comme il est écrit, ceux qui tremblent, même à la pensée déjà de sa parole. Je crois Dieu. Est-ce là ton témoignage et le mien? Pouvons-nous dire de tout cœur, je crois Dieu? Et je voudrais lire le passage préféré de frère Branham à ce sujet, tiré de l'évangile de Jean, selon Jean, au chapitre 5, verset 24, et vous constaterez qu'ici aussi, il n'est pas seulement écrit de croire, mais qu'il s'agit de croire Dieu. Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je voudrais encore lire quelques passages de l'Écriture, puis nous devons nous pencher brièvement sur le baptême biblique. Commençons par Actes des Apôtres, le chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3. Peut-être en pensant à la chère parole, à la précieuse parole que nous avons lue ici mercredi soir, tirée de l'Épître aux Romains. Peut-être que je la lirai aussi tout à l'heure. Actes des Apôtres, chapitre 3, du verset 17. Or maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance comme vos supérieurs. Or, Dieu a fait ainsi s'accomplir ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son oint souffrirait. Répentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient pardonnés. Jusqu'ici, cette parole chère, précieuse de Dieu. L'essentiel ici est de prouver par l'Écriture ce que Dieu est en train de faire. Dieu ne fait pas les choses selon la volonté d'un homme, selon le programme d'un évangéliste, selon les décisions d'un conseil mondial des églises. Dieu fait tout selon le conseil de sa volonté qu'il a révélé à ses serviteurs et à ses prophètes. Et heureux les hommes qui peuvent s'y plier et s'y soumettre et l'accepter sans résistance intérieure en remerciant Dieu de tout cœur. Pierre explique ici que ce qui s'est passé alors, autrefois, était un accomplissement de ce que Dieu avait prédit par la bouche des prophètes, à savoir que le Christ devait souffrir. Mais pas seulement cela. Il a été prédit encore plus que ça, qu'il serait glorifié et que ses souffrances et sa mort en vaudraient la peine. Et qu'au jour qu'il a fixé, une multitude apparaîtrait devant son trône, sans tache et sans ride, lavée dans le sang de l'agneau. Mercredi soir, nous avons lu ici la parole tirée de l'Épître aux Romains, au chapitre 15, et je voudrais particulièrement citer le verset 4. Le verset 4 à 6. Romains chapitre 15, verset 4 à 6. Ainsi donc, tout ce qui a été écrit avant les temps a été écrit pour notre instruction, afin que, par la persévérance constante et par la consolation que donnent les Saintes Écritures, nous restions fermes dans l'espérance. Mais que le Dieu de qui viennent la persévérance et la consolation vous aide à avoir entre vous une même pensée à la manière du Christ Jésus, afin que d'un commun accord, tous ensemble, vous puissiez d'une seule bouche glorifier le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Frère Rousse a lu la parole glorieuse selon laquelle les hommes de tous les lieux doivent lever des mains, des hommes dans tous les lieux, pardon, doivent lever des mains saintes, sans colère ni doute. Ils doivent lever les mains vers Dieu dans les cieux, dans l'attente qu'il nous regarde avec miséricorde et nous bénisse de la richesse de sa grâce. La consolation que l'Écriture accorde, ce n'est pas une consolation humaine, ni une consolation passagère. C'est une consolation divine, une consolation permanente, permanente, selon la parole de l'Écriture. Consolez, consolez mon peuple. Dieu a préparé une consolation pour son peuple à l'époque de l'accomplissement de la prophétie, des prophéties bibliques. À l'époque, Simon et d'autres ont attendu la consolation d'Israël et ils ne l'ont pas fait en vain. L'heure de Dieu est toujours venue. Où ce qu'il a promis s'est produit. Il en sera de même maintenant. Dieu est lié à sa parole. Notre détresse réside éventuellement dans le fait que nous devenons impatients parce que nous ne connaissons pas ce temps et cette heure. C'est pourquoi il y a ici aussi cette exhortation. Ou alors cet avertissement au verset 5 de Romains 15 que « Mais que le Dieu de qui viennent la persévérance et la consolation vous aide à avoir entre vous une même pensée à la manière du Christ Jésus. Vous avez besoin de patience pour obtenir les promesses de Dieu. » Revenons au commencement. Je crois Dieu. Abraham a cru Dieu. Et cela lui a été imputé à justice. Lorsque l'heure de l'accomplissement de la promesse est arrivée, a-t-il vu de ses propres yeux ce qui lui a été promis Et ce qu'il a cru, de ses propres yeux, ce qu'il a cru, il a vu accompli, l'a-t-il pas vu accompli? Il en sera de même pour nous, la semence d'Abraham, la postérité d'Abraham, en ces jours. Nous sommes d'abord porteurs des promesses divines, puis nous sommes portés et conduits par ces promesses dans leur accomplissement. Ensuite, notre cœur se réjouit, notre esprit exulte en Dieu, notre Sauveur, pour la grâce qui nous a été accordée. Permettez-moi de lire ce que Paul a dit à ce sujet dans le chapitre 13 des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 13, du verset 26, il est écrit ici. Actes 13, verset 26. Honorables frères, fils de la race d'Abraham, et vous autres ici présents qui craignez Dieu, remarquez-vous de quoi il s'agit. Les gens qui ne craignent pas Dieu, qui n'ont pas la crainte de Dieu, ne se laissent absolument pas interpeller par Dieu. Et s'il leur parlait, ils auraient tout intérêt à le contredire, n'est-ce pas? La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse divine. La grâce et la sagesse divine ne peuvent se manifester en nous que si nous rencontrons Dieu avec crainte et si nous écoutons sa parole de la même manière que nous le rencontrons. Ne pas avoir peur, mais craindre Dieu. Avoir du respect devant Dieu. Il relit la moitié du verset 26. C'est à nous que cette annonce du salut a été faite. Maintenant, le verset 27. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs, bien qu'ils n'aient pas reconnu ce Jésus, ont fait s'accomplir par leur sentence de condamnation les oracles des prophètes qui sont lus chaque sabbat. C'était une grande frayeur, mais ce qui s'est passé était conforme à la parole. Il était déjà écrit dans le prophète Daniel, chapitre 9, verset 27, probablement du verset 25 au verset 27, en Daniel 9, qu'il avait été condamné sans qu'on ait trouvé de faute en lui, Daniel 9, et aussi dans Ésaïe 53. Il a pris sur lui le châtiment. Il devait prendre sur lui la condamnation. Nous n'avons pas besoin d'accuser Hérode, ni Caïphe, ni Pilate, ni les scribes. Nous pouvons remercier Dieu de ce que l'Écriture s'est accomplie et que nous avons été rachetés, même si le chemin était si humiliant, si épineux. Néanmoins, cela s'est passé conformément à la parole de Dieu, comme il est écrit ici. La sentence de condamnation s'est accomplie. Qui était condamné? Qui était séparé de Dieu? C'était nous. Toute l'humanité est née dans ce monde séparé de Dieu. Séparé de Dieu. Il fallait que vienne quelqu'un en qui Satan, le péché et la mort n'auraient aucun droit. Quelqu'un qui souffrirait la mort pour tous, qui retirerait l'aiguillon de la mort, qui vaincrait la mort, qui triompherait de l'enfer et qui absoudrait ceux qui étaient coupables. Il sauve les perdus, pardonne les péchés des pécheurs et fait prévaloir la grâce sur la justice. Verset 28. Et bien qu'il n'ait trouvé en lui aucune faute digne de mort, ils ont néanmoins demandé son exécution à Pilate. Enfin, après avoir exécuté tout ce qui est écrit à son sujet. Remarquez-vous de quoi il s'agit? Cela devait se passer ainsi. C'était le plan de salut de Dieu. Nous ne pouvons pas nous demander pourquoi et comment. Nous sommes tellement reconnaissants à Dieu que cela soit arrivé, que Jésus-Christ soit mort en tant que fils de Dieu pour donner vie à une nouvelle race divine, c'est-à-dire pour faire de nous des fils et des filles de Dieu, pour appeler à l'existence une nouvelle race divine. Il est ensuite écrit au verset 29 à la fin, « Ils l'ont descendu de la croix et l'ont mis dans un tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Et pendant plusieurs jours, il est apparu à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Bien alors témoin pour lui auprès du peuple. Alors que je lisais le Coran récemment dans lequel Jésus est, où il est écrit que Jésus est si souvent mentionné, mais il y a un passage qui dit que ce n'est pas lui qui est mort, mais quelqu'un d'autre, et que Dieu l'a amené au ciel sans qu'il soit mort. Et que Dieu l'enverra de nouveau, l'enverra de nouveau faire le ménage sur la terre avant l'établissement de son royaume. Mettre de l'ordre sur la terre avant l'établissement de son règne, de son royaume. Si Jésus était monté au ciel sans mourir, sans expier le péché, sans retirer l'aiguillon de la mort, sans vaincre l'enfer, alors toi et moi serions descendus en enfer. Cela devait se passer ainsi. Et nous sommes tellement reconnaissants à Dieu qu'il y ait eu de vrais témoins vivants. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur Dieu dit, dans le prophète Ésaïe 43, « Vous êtes mes témoins, vous êtes mon serviteur et je suis votre Dieu. Et en dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. » Jésus répondit, « Vous êtes mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'à la fin du monde. » Il y a eu des témoins vivants qui ont vu le Seigneur vivant après sa résurrection et qui ont mangé et bu avec lui. Qu'il lui plaise à lui, le vainqueur, le héros ressuscité de la victoire de Golgotha, de se préparer un corps pour donner à tous ceux qui le nient d'une manière ou d'une autre une démonstration divine de sa puissance de résurrection. Pensez-vous qu'il puisse le faire? Il peut le faire. Il est le même aujourd'hui tel qu'il l'était autrefois. Mais vous savez que c'est ce chapitre qui a marqué le tournant des Juifs vers les nations. Et Paul l'a déjà ressenti intérieurement. Tout a dû se contracter en lui lorsqu'il a dit ici au verset 40. Prenez garde que la parole des prophètes ne soit pas vraie au milieu de vous. Regardez, méprisant, étonnez-vous et périssez, car j'accomplis une œuvre en vos jours, une œuvre que vous ne croiriez certainement pas si on vous la racontait. C'était écrit dans le prophète Habakkuk. Soudain, la parole prophétique était dans le cœur de cet apôtre par inspiration divine, parce que l'heure avait sonné où la parole devait aller aux nations. Je lis à partir du verset 46 d'Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 46. Alors Paul et Barnabas leur déclarèrent avec audace, « Il fallait que la parole de Dieu vous soit d'abord annoncée. » Mais parce que vous la rejetez et que vous ne vous estimez pas digne de la vie éternelle et que vous ne vous estimez pas digne de la vie éternelle, nous nous tournons maintenant vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai fait lumière des nations pour que tu deviennes salut jusqu'aux extrémités de la terre. Quand les païens entendirent cela, ils se réjouirent et glorifièrent la parole du Seigneur. Et tous, dans la mesure où ils étaient destinés à la vie éternelle, crurent. La parole du Seigneur se répandit donc dans toute la région. Nous voyons que chaque chose a sa place, chaque chose a son temps fixé par Dieu. Et je voudrais lire les passages bibliques qui s'y rapportent l'un après l'autre, afin que vous voyez de quelle manière Dieu avait sa voix. D'abord avec Israël et ensuite avec les nations. Et lorsque le temps des nations sera écoulé, Luc 21, verset 24, et puis la parole de l'épître aux Romains, le 11e chapitre, du verset 25, le jour vient où Dieu se tournera de nouveau vers son peuple bien-aimé Israël, qu'il a aveuglé à cause de nous et où il lui ouvrira les yeux pour qu'il regarde à celui qu'ils ont percé. Pour vous montrer ce passage, permettez-moi de passer à Matthieu, chapitre 10, verset 5 et 6. Matthieu chapitre 10, verset 5 et 6. Jésus envoya ses 12 après leur avoir donné ses instructions. Ne prenez pas le chemin des nations et n'entrez pas dans une ville de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ce fut la première mission, le premier envoi, mais pas le dernier. C'était le commencement, pas la suite. Cela s'appliquait à cette période. Écoutez ce que notre Seigneur bien-aimé a dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 10. Je voudrais souligner le verset 14 du chapitre 10 de Jean. Jean 14, verset Jean 10, verset 14 et verset 16. Après avoir lu le verset 16, je voudrais souligner le verset 14 du chapitre 10 de Jean et le verset 16 pour une raison très précise. Après avoir lu le verset 16 dit, donc d'abord Jean 10, verset 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les mène. Elles répondront à mon appel et il n'y aura qu'un seul troupeau et un seul berger. » Pas seulement les brebis d'Israël dans le troupeau de Dieu. J'ai d'autres brebis qui ne font pas partie de ce troupeau. Je les appellerai ou les guiderai et elles ou les conduirai et elles répondront à mon appel. Chers frères, chères sœurs, nous n'avons pas entendu l'appel d'un évangéliste ou d'un prédicateur. Nous avons entendu l'appel du bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis, qui a laissé sa vie pour ses brebis. Et je voudrais maintenant vous faire savoir à quoi vous pouvez voir et vérifier s'il en est ainsi. Le verset 14 dit, je suis le bon berger, Jean 10, verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Amen. Amen. Oh, c'est la gloire. C'est merveilleux. Je connais les miennes. Il n'y a pas de point ici. Je connais mes brebis. Ici, il y a une virgule seulement. Ça doit continuer. Il y a une suite, juste une virgule, n'est-ce pas? Et les miens me connaissent. Et elles me connaissent. Celui qui a été connu de Dieu connaîtra Dieu. Alléluia! Gloire et honneur au Dieu vivant. Nous ne sommes pas ici pour faire de la religion. Nous sommes ici devant la face du Dieu vivant pour entendre la vérité. Et la vérité nous a rendus libres. Ainsi parle le Seigneur dans sa parole. Je suis le bon berger et je connais les miens. Je connais mes brebis, croyez-vous qu'il connaît les siens? Dites Amen. Qu'il connaît ses brebis. Croyez-vous aussi qu'il connaisse, que les siens le connaissent? Que ses brebis le connaissent? Oui, il ne reste alors plus qu'à conclure que celui qui ne le connaît pas, qui ne sait pas qui il est, ne l'aura probablement pas encore rencontré. Il aura entendu parler de lui. Seulement, j'ai entendu parler de beaucoup d'hommes politiques, mais je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Par oui dire, mais une rencontre n'a pas eu lieu. Je ne les ai jamais rencontrés personnellement, mais j'ai entendu parler d'eux. Et c'est la même chose. Beaucoup ont entendu parler. Vous voyez, on a beaucoup parlé de, entendu parler de certains gens, de certaines personnes, pardon. Beaucoup ont entendu parler aussi de Jésus-Christ, mais n'ont pas eu de rencontre personnelle avec lui, ne l'ont pas expérimenté dans la puissance de sa résurrection, n'ont pas reçu la révélation qu'il est, qu'il n'est pas seulement l'agneau de Dieu. C'est ce qu'il est, mais il est l'agneau de Dieu, mais il est aussi le souverain sacrificateur, il est intercesseur, il est le fils de Dieu, il est le médiateur, il est fils de l'homme, il est fils de David, il est roi, il est sacrificateur, il est prophète, il est beaucoup de choses, mais il est le Seigneur, et en tant que Seigneur, il est Dieu révélé dans la chair, Emmanuel, Dieu avec nous. Même les érudits doivent savoir cela, que le mot Emmanuel ne signifie pas en soi le Fils de Dieu avec nous ou l'Esprit de Dieu avec nous, mais le mot Emmanuel, le nom, pardon, Emmanuel signifie en fait Dieu avec nous. Alléluia. C'est dans le Fils que le Père nous est apparu. Croyez-vous cela tous? Il connaît les siens. Et les siens le connaissent. Bien-aimés, il y avait quelque part des gens ensemble avec vraiment grande réputation, rang et nom. Et là, il y en a un qui était présent et son chapeau a sauté. Et quand son heure est venue pour parler, il a crié dans la foule. Il a dit, je vous demande, qui de vous a été appelé par Dieu, par le titre, par les titres qui ont été utilisés lors de votre présentation? Qui de vous a été appelé par Dieu par les titres qui ont été utilisés pour vous présenter lors de votre préparation? Et là, bien sûr, aucune main ne s'est levée. Puis il a cité la parole. Il m'a appelé par mon nom, par un titre ou une distinction. C'est par notre nom qu'il nous a appelés, toi et moi. Il sait où nous habitons. Qui nous sommes, ce que nous sommes, il sait tout. Mais il a eu pitié de nous. Il nous a appelés par notre nom. Et nous pouvons aussi l'appeler par son nom. L'appeler par son nom. Alléluia. L'invoquer par son nom, de son nom. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est par, comme c'est écrit, au-dessus de son nom, il a rendu sa parole encore plus glorieuse afin que nous ne trébuchions pas dessus, mais que nous nous y rélevions. Galates chapitre 3, ici, il faudra peut-être lire du verset 2 au verset 9, mais nous devons encore parler du baptême. C'est pourquoi nous ne lirons que tout ce qui est nécessaire seulement. Oui, peut-être dès le verset 6. Galates, chapitre 2, du verset 9 au verset 6. Galates, chapitre 3, du verset 6 au verset 9. Comme pour Abraham, il crut Dieu, et cela lui fut compté pour justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Mais comme l'Écriture prévoyait que Dieu justifierait les nations à cause de la foi, il a donné d'avance à Abraham la promesse de salut. En toi, toutes les nations seront bénies. Ainsi, ceux qui ont la foi, reçoivent la bénédiction avec Abraham, le croyant. Frère Rousse ne savait certainement pas, lorsqu'il a proposé ce cantique, que ce texte serait lu. Certainement pas. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Abraham a servi d'autres dieux de l'autre côté de l'Euphrate. Et soudain, Dieu l'a appelé par son nom. C'était le jour, pardon, où il a commencé à marcher avec Dieu. Où la marche avec Dieu a commencé. Bien-aimés, nous avons aussi suivi nos propres voies. Nous avons servi d'autres dieux. Maintenant, nous pouvons servir le Dieu, le seul Dieu vrai et vivant, en dehors duquel il n'y en a pas d'autre. Car c'est ce qui est écrit. Mais ce Dieu unique, ce Dieu seul s'est révélé de manière merveilleuse. Déjà dans l'Ancien Testament. Il y a une lettre sur mon bureau. Elle me demande de répondre aimablement à quelques questions, en particulier sur la divinité. Il a également fait mention du passage selon lequel l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu est aussi longtemps que Dieu était et sera aussi longtemps que Dieu est. Car le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Et comme À l'époque, Dieu a pris une forme visible. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et comme à l'époque, Dieu a pris une forme visible en tant que Seigneur, en tant que Yahvé ou Jéhovah, quel que soit le nom que les gens lui donnent. C'est ainsi qu'il s'est révélé tout au long de l'Ancien Testament jusqu'à ce que la parole se fasse chair et vienne habiter parmi nous. Dieu ne s'est pas multiplié. Bien au contraire, il est resté ce qu'il était en ce qui concerne ses formes de révélation. Il n'a fait qu'une chose. Il a été dans le corps qui est immortel et est sorti de ce corps immortel pour venir dans un corps mortel. Dans ce corps mortel, il a été soumis au péché et au jugement de condamnation pour nous racheter. Il devait lui-même devenir mortel. Lui, le Seigneur, a dû prendre une forme de serviteur. Non pas pour être autre chose que ce qu'il était, mais il était nécessaire pour appeler à l'existence des fils et des filles de Dieu. Et pour que cela soit possible, il fallait qu'un engendrement par l'Esprit soit accompli en premier lieu et que plus tard, d'autres fils et filles de Dieu soient ensuite engendrés par la parole et par l'Esprit, lesquels seront alors à la perfection configurés, semblables à l'image du Fils de Dieu. Et quand viendra la perfection, il se soumettra à celui qui lui a tout soumis. Et alors, Dieu sera tout en tous. Et nous, fils et filles de Dieu accomplis avec lui, Dieu habitera avec eux, au milieu d'eux. Oui, et il sera leur Dieu, et ils seront son peuple. Revenons ici à cette parole glorieuse de Galates 3, verset 6. Comme pour Abraham, il crut Dieu. Il crut Dieu. Que pouvons-nous faire de plus, toi et moi, que de croire Dieu? Remarquez-vous, pourquoi la foi a reçu une telle importance? Celui qui croit ne sera pas confondu. Abraham croyait Dieu, a cru Dieu et il est devenu de plus en plus fort. Dans la foi, il ne s'est pas laissé égarer par la longue attente, par toutes les circonstances. Il a cru Dieu malgré tout et cela lui a été imputé à justice. Maintenant au verset 7, il est écrit « Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Mais comme l'Écriture prévoyait, verset 8, que Dieu justifierait les nations à cause de la foi. À cause de la foi, elle a annoncé d'avance à Abraham la promesse de salut. En toi, toutes les nations seront bénies. Toutes les nations ici comprennent aussi toi et moi. Nous sommes inclus. Ce terme englobe toutes les nations. Nous ne le cherchons pas par nos propres moyens, par nos propres œuvres. Croyons Dieu. Et qui croit Dieu? Vraiment, nous l'avons déjà dit ici. Il y en a tellement qui le disent, qu'ils croient en Dieu. Et il y en a qui nous reprochent si nous croyons en Jésus-Christ de ne pas croire alors en l'unique vrai Dieu. C'est exactement le contraire. Celui qui ne croit pas en Jésus-Christ ne croit pas au Dieu seul, unique, vrai et personnel. Dieu n'est pas seulement une puissance, pas seulement quelque chose comme le vent, une force. Dieu est une personne. Dieu peut parler, Dieu peut marcher, Dieu peut entendre, Dieu peut écrire et voir, etc. Tout est clairement attesté dans les Écritures. Et c'est pourquoi, ou parce que Dieu ne s'est révélé réellement et manifesté réellement, et cela personnellement, d'une seule fois sur terre, qu'une seule fois. Donc, parce que Dieu ne s'est révélé réellement et personnellement qu'une seule fois sur terre, les hommes doivent, pour être sauvés, croire en lui de la manière dont il s'est révélé pour notre salut. Pour notre salut. Et cette révélation n'était pas en Moïse ni en Élie. C'est à eux que la parole est venue. Mais le jour ensuite est venu où la parole elle-même s'est faite chair, tout entière, et a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire. Vous voyez de quoi il s'agit? Celui qui a vu Moïse, a vu Moïse. Celui qui a vu Abraham, il a vu Abraham. Celui qui a vu Jean-Baptiste, a vu Jean-Baptiste. Et celui qui a vu Paul. Mais celui qui a vu Jésus par révélation, a vu le Seigneur de gloire lui-même, le roi des rois. Il a vu l'Écriture comme un accomplissement vivant devant ses yeux. Allons plus loin, et plus précisément au chapitre 3 d'Éphésiens. Éphésiens, chapitre 3. Ici aussi, je voudrais lire très brièvement à partir du verset 2. Éphésiens, chapitre 3, à partir du verset 2. Éphésiens 3, verset 2. Vous avez certainement entendu parler de l'administration de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour vous. Concernant le mystère qui m'a été fait connaître par révélation, sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Par là, si vous le lisez, vous pouvez reconnaître mon intime familiarité avec le mystère du Christ, ce qui dans les siècles passés n'a pas été fait connaître aux enfants des hommes, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et prophètes. Car les païens sont cohéritiers, formant un même corps et participant à la même promesse en Jésus-Christ par le message du salut. Par l'évangile, a dit Frère Frank. Est-ce que cela n'est pas une parole merveilleuse? Notre Seigneur a d'abord dit « Allez seulement vers les brebis perdues d'Israël ». Puis il dit soudain « Je suis le bon berger, je donne ma vie pour les brebis ». Puis vient cette déclaration puissante, énorme. « J'ai encore d'autres brebis qui ne font pas partie de ce troupeau. Je les conduirai, elles aussi, et elles répondront à mon appel. » Et nous voyons ici l'implication des peuples païens dans l'ensemble du plan de salut de notre Dieu. Qu'est-ce qui nous frappe encore au verset 5? C'est qu'il a maintenant, ce plan du salut a été maintenant révélé à ses saints apôtres et prophètes. 400 ans s'étaient écoulés depuis le dernier prophète de l'Ancien Testament, à savoir Malachie. Et puis, dans Hébreux chapitre 1, il est écrit, Dieu a parlé de diverses manières par les prophètes, mais à la fin des temps, il nous a parlé dans son Fils. J'ai pris la liberté de dire dans le Fils. Il n'a pas seulement parlé dans le Fils. Il a résumé tout ce qu'il avait dit auparavant et nous a donné la réponse. Jésus était le centre de la prédication. Il était le centre de la proclamation de la parole. En lui, la parole elle-même est devenue une réalité divine. Mais maintenant, les gens disent, sur la base d'Hébreux 1, qu'il n'y a plus de prophète. car Dieu avait parlé à travers eux, et ensuite c'est fini, c'est le passé. Donc maintenant, nous avons ici les choses entre nos mains. Non, jamais Dieu n'a mis son œuvre entre les mains des hommes. Maintenant, vous pouvez dire, vous pouvez dire, oui, mais qui était Moïse? Qui était Abraham? N'était-il pas des hommes? C'est là que nous devons rectifier quelque chose. Il y a une grande différence entre les hommes qui s'arrogent le droit de prendre la parole entre leurs mains et d'en faire ce qu'ils veulent en l'interprétant. Ou bien est-ce que un appel saint serait sorti de la bouche du Seigneur lui-même? Une vocation, un mandat, un appel et un envoi. Et un tel homme n'agit pas comme il veut avec la parole. Avec un tel homme, c'est Dieu lui-même qui agit selon sa parole, en accord avec sa parole, ici sur cette terre. C'est là la grande différence entre une profession, un métier et une acquisition, et entre un appel divin et lié avec cet appel est le développement de l'histoire du salut selon le plan de notre Dieu. Mais il y avait des hommes dans le Nouveau Testament. Des hommes, il y avait des apôtres dans le Nouveau Testament. Il y avait des prophètes dans le Nouveau Testament. Il y avait des bergers et des évangélistes dans le Nouveau Testament. Il est même écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 14 que les prophètes doivent parler deux ou trois. Je peux vous le lire ici. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 29. Que les prophètes ne soient de même que deux ou trois à s'exprimer et que les autres se forment un jugement. Et vous savez que cela n'a rien à voir avec les prophéties. Les prophéties. Et je vais vous le dire aussi pourquoi. Cela a à voir avec l'exposition de la parole prophétique dans l'Église pour dissiper tout doute. Je vais devoir continuer à lire. Je commence à nouveau par le verset 29. Que les prophètes ne soient de même que deux ou trois à s'exprimer et que les autres se forment un jugement. Mais si une révélation est faite à un autre qui est encore assis, que le premier se taise, car vous pouvez tous successivement parler comme des orateurs prophétiques afin que tous reçoivent des instructions et que tous soient avertis. Mais si quelqu'un prophétisait, aucun homme ne pourrait l'interrompre, car il s'agirait d'un discours, car il s'agirait ici d'une parole de Dieu par inspiration directe. Il s'agit ici d'exposer, mais ici il s'agit de l'exposition du conseil prophétique de Dieu. Et si quelqu'un parle et qu'il ne touche pas le cœur de cette chose qui est exposée, il pourrait arriver qu'un autre soit assis là, à qui il serait soudain donné la révélation, la solution, la réponse, la parole juste pour éclairer bibliquement ce contexte dont il est justement question, pour que tous reçoivent un enseignement. C'est ça, à 100%, c'est ainsi. Voilà le vrai contexte et je souhaiterais effectivement que ce temps-là revienne parmi nous, que l'Esprit de Dieu puisse agir aussi librement parmi nous. Maintenant que nous le voulions ou non, nous devons passer très rapidement au baptême biblique. Et nous le ferons presque uniquement en lisant des passages bibliques, car la parole parle, n'est-ce pas, d'elle-même. Dieu ne nous a pas envoyés pour expliquer sa parole. Il nous a envoyés pour prêcher l'évangile et pour enseigner à toutes les nations à observer ce qu'il nous a commandé. Les scribes peuvent donner des explications tant qu'ils veulent et aussi longtemps qu'ils le veulent. Ici, on n'explique pas. On reçoit révélé par l'Esprit, c'est-à-dire ce que Dieu a dit dans sa parole. Et que le Seigneur soit aujourd'hui spécialement présent dans nos frères et sœurs qui, bien-aimés, qui viennent de nous rejoindre, qui sont nouveaux parmi nous, qu'ils puissent faire en eux ce qui est écrit dans Luc 24. Il est écrit qu'il leur ouvrit l'intelligence pour les Écritures. Il leur ouvrit la compréhension pour les Écritures. Les Écritures peuvent être annoncées et enseignées de toutes les manières possibles, à moins que le Seigneur ouvre notre compréhension et nous donne la révélation. Sinon, nous ne pouvons pas connaître Dieu et ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Dans Matthieu 28, il en va de même que dans toutes les paroles en parabole de notre Seigneur. Au verset 19, il est dit, « Allez donc faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Comme dans toutes les paraboles, le Seigneur n'a pas révélé la chose elle-même, c'est-à-dire le nom dans lequel le baptême devait être effectué. Dans ce contexte, il n'a pas révélé le nom, il devait être révélé plus tard. Ici, nous avons affaire au dernier verset du dernier chapitre de l'Évangile. La dernière mission, le dernier, il n'y a plus d'explication derrière. C'est maintenant que devait commencer le temps où le Saint-Esprit révélerait et transfigurerait, ou bien alors révélerait, oui, ferait connaître ces choses. C'est pourquoi Jésus a dit que quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est mien et vous l'annoncera. Il vous le fera connaître. Il a pris les paroles de notre Seigneur. Il les a révélées dans leur signification divine et les a ensuite offertes aux disciples, spécialement aux apôtres, par grâce. Il est seulement dit ici que le baptême doit être fait au nom. Le nom lui-même n'est pas mentionné ici. Nous savons que Dieu est notre Père céleste, notre Père au ciel, dans les cieux. Mais nous ne nous adressons pas seulement à lui en tant que Père. Nous devons même prier notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Oui, quel est le nom du Père qui doit être sanctifié, dans lequel il doit être baptisé? Vous pourriez maintenant lire l'Épître aux Hébreux. Cet homme de Dieu qui l'a écrite, qu'il soit béni éternellement, car il a exprimé la pensée de Dieu, les pensées de Dieu de manière très puissante. Hébreux, chapitre 1, verset 4, dit, il est devenu par là plus grand que les anges, autant que le nom qu'il a reçu en héritage est supérieur au leur. Quel était son nom? Quel était son nom? Il a hérité comme tu as hérité aussi toi le nom de ton père. C'est ainsi que le Fils a reçu ce nom en héritage. Sanctifie-les en ton nom. Bien sûr, c'est un ou obtiens-les en ton nom. Garde-les dans le nom que tu m'as donné. Est-ce vrai? Vérité à 100% dans les actes des apôtres. Et je vous demande à tous de croire qu'ici ce n'est pas Pierre qui a donné son propre enseignement, mais le Dieu Tout-Puissant qui par la bouche qui avait été destiné par les lèvres qui étaient ointes pour cela a exprimé ce qui doit être obligatoire et contraignant pour l'Église du Dieu vivant tant qu'elle est sur la terre. Et c'est écrit ici, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37. Lorsqu'ils entendirent cela, ce fut comme un coup de poignard dans leur cœur. Et ils se tournèrent vers Pierre et les autres apôtres et demandèrent, « Que ferons-nous, chers frères ?» Et ils se tournèrent vers Pierre et les autres apôtres et demandèrent, « Que ferons-nous, chers frères ?» Pierre leur répondit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » pour le pardon de vos péchés et vous recevrez aussi le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont encore loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu en appellera. Vous pouvez continuer à lire si vous le souhaitez. Ici, la réponse, le jour de la Pentecôte, a été la fondation de l'Église. Les premières personnes sont venues à la conversion. Ils ont reçu le pardon de leurs péchés par la foi en Jésus-Christ, en l'œuvre de la rédemption accomplie. Ils ont été justifiés par la foi. Mais pour prouver qu'ils croient que leurs péchés sont pardonnés, ils devaient se laisser baptiser pour la rémission des péchés. Non pas que les péchés sont pardonnés par le baptême. L'eau ne peut pas pardonner les péchés. C'est le sang, la vie qui est dans le sang. Le sang a coulé pour notre pardon. C'est pourquoi Jésus a dit, le sang est versé pour la multitude, pour la rémission des péchés. C'est le sang de la nouvelle alliance. Le baptême ne peut être accompli que sur ceux qui croient de tout cœur à la rédemption qui a eu lieu sur la croix à Golgotha par le sang de l'agneau. Nous devons insister sur ce point. Nous ne pouvons pas simplement dire, venez tous maintenant et nous vous baptiserons. Nous serions heureux si au lieu de 3 000, il y avait 30, 40 ou 50 000. Mais nous devons le dire et l'exprimer clairement en présence de Dieu, en responsabilité devant le Seigneur, clairement. Le baptême biblique est une alliance de bonne conscience avec Dieu. Le baptême biblique est un ensevelissement avec Jésus-Christ dans sa mort. On ne peut ensevelir, c'est-à-dire enterrer, que des personnes qui sont mortes, qui sont arrivées au bout de leur propre voie, qui ont pénétré sur le chemin étroit qui mène à la vie, qui sont entrées par la porte étroite, qui ont reçu la certitude qu'elles sont devenues enfants de Dieu selon la parole de l'Écriture. Son esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous croyons, bien-aimés, que Dieu vous a conduit ici pour vous montrer le bon chemin, pour vous faire voir Golgotha dans toute sa signification. Croyez-vous aussi de tout votre cœur que le sang de l'agneau vous a aussi réconcilié avec Dieu. Vos fautes et vos péchés ont également été expiés et pardonnés. Croyez de tout votre cœur que Jésus-Christ a pris votre place, qu'il s'est chargé de toutes vos fautes et bien sûr de toutes les nôtres et qu'il les a portées sur la croix. Il a été fait péché pour nous afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Celui qui croit cela de tout son cœur tombe sous la promesse que nous avons lue dans Galates 3, à savoir que Dieu a déjà fait à Abraham la promesse du salut par avance, en avance, afin que toute la nation soit justifiée par la foi. Mais qui et quoi est l'objet de cette foi? Pas par une foi en l'air, pas par la foi en quelque chose que nous pensons être juste. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta maison. La foi en Jésus-Christ en tant que votre sauveur personnel est la condition préalable et le prérequis pour pouvoir croire également qu'il a porté votre péché, payé votre dette et vous a accepté. Si vous pouvez le croire, si vous en avez fait l'expérience et si vous portez dans votre cœur la certitude d'être la propriété du Seigneur, vous pouvez alors aujourd'hui vous faire baptiser bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voyez toujours, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ici, ensuite le nom est révélé. Père, Seigneur, Fils, Jésus, Christ, oint de Dieu. Fils, Jésus, Christ, oint de Dieu. Vous voyez l'ordre? Il y a des gens qui disent simplement « Je te baptise au nom de Jésus ». Ce n'est pas correct. Il y en a qui te disent, je me fais baptiser dans la mort du Christ. Ce n'est pas juste. Père, Fils, Saint-Esprit. Seigneur, Jésus, Christ. Il faut que les voies soient justes de A à Z. Dieu nous a Dieu, n'est-ce pas, n'a pas pris compte des temps de l'ignorance, mais maintenant il ordonne à tous, en tout lieu, de se repentir et de se convertir à Dieu et de se conformer à sa parole et à se soumettre à sa volonté et à ses paroles et à se faire baptiser bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis tellement reconnaissant à mon Dieu que dans toute ma vie, il y a sûrement probablement plusieurs milliers de personnes qui ont été baptisées. J'ai baptisé en un jour 129 personnes. J'ai baptisé de très, très nombreuses personnes dans de nombreux pays, mais je n'en ai vraiment pas baptisé une seule depuis toujours autrement que de manière biblique. Donc une seule personne depuis toujours autrement que de manière biblique au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis également reconnaissant de tout mon cœur et de toute mon âme pour cette grâce qui m'a été accordée. Les frères peuvent alors continuer à sonder les Écritures, et le frère Kerr, que Dieu a déjà utilisé, pourra leur lire d'autres passages des Écritures. Tout ce qui est nécessaire pour cette étape qui est maintenant devant nous ou pour vous a été lu. Et les choses ont été dites. Le reste est maintenant avec vous et avec Dieu. C'est à vous de prendre la décision et de faire ce pas avec foi. Nous voulons simplement vous encourager. Croyez que ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Croyez que l'enseignement des apôtres est encore valable aujourd'hui et que l'Église du Nouveau Testament porte une couronne de 12 étoiles selon Apocalypse 12, ce qui signifie qu'elle est couronnée de l'enseignement des 12 apôtres. Puisse-t-il en être de même à la fin qu'au commencement? Je n'aurais pas osé faire la remarque ci-dessus si je ne l'avais pas entendu de la bouche de frère Branham dans la série des questions et réponses sur les épîtres aux Hébreux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous par grâce dans le précieux et saint nom de Jésus. Et vous avez remarqué que c'est à dessein que j'ai maintenant dit seulement Jésus. Malheur à vous si vous en faites maintenant une forme et commencez soudain à prier. Je prie ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Malheur à vous si vous faites cela. Je peux vous lire la Bible où il est seulement écrit que la grâce de Jésus soit avec vous. S'il vous plaît, distinguez ce qui est nécessaire à une action divine sur la base de la révélation divine selon les Écritures. Et ne faites pas de forme dans la prière. Laissez l'Esprit de Dieu s'exprimer dans la prière et recevoir ce qui lui revient de plein droit. Je vais vous lire le dernier verset du Nouveau Testament pour que vous sachiez qu'il n'est pas ici, qu'il n'est pas écrit en, que cela n'est pas, qu'il n'est pas ici écrit en entier. Ici, Apocalypse 22, verset 21. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Pas Jésus-Christ, mais du Seigneur Jésus. Et je peux vous donner suffisamment d'autres passages bibliques en un clin d'œil, ici déjà une fois en entier dans Philippiens dernier chapitre, dernier verset. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Mais je lirai volontiers quelque chose de plus pour que vous sachiez ce qui est écrit ici. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Pas de forme, pas de normes, pas de modèle, mais la direction du Saint-Esprit. Et si vous lisez attentivement le livre des Actes des Apôtres, vous constaterez vous aussi que les apôtres et les scribes, que les apôtres et les, pas les scribes, que, et les écrivains des épîtres, ou bien l'écrivain des Actes des Apôtres, ils ne se sont pas contentés de copier les uns sur les autres, mais que comme ils étaient guidés par l'Esprit, ils l'ont dit aussi. Les uns disaient « Et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ », tandis que les autres disaient toujours « Au nom du Seigneur ». Avez-vous remarqué cela? Toutes ces différences, Dieu l'a fait exprès. Seulement quand il s'agit de l'action directe, quand ils écrivent, ils disent « Jésus-Christ », après ils disent ici « Seigneur ». Mais quand il s'agit de l'action directe, nous savons qu'elle doit être complète pour être correctement accomplie. Mais dans la prière, je peux dire, je demande cela au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut dire, je le fais au nom du Seigneur. Amen. On peut dire que ce que l'on ressent comme étant guidé par l'Esprit de Dieu, s'il vous plaît. Ne faites jamais une forme ou une norme. Ce n'est que lorsqu'il s'agit de choses bibliques qu'elles sont fixées une fois pour toutes. Et nous devons nous y tenir. Là, nous devons nous y tenir. Que la grâce de Dieu soit avec nous tous. Amen. Levons-nous et chantons ensemble, puis prions. Chantons d'abord « Comme je suis, il doit en être ainsi ». tel que je suis, comme je suis, il doit en être ainsi. Pas ma force, mais seulement la tienne. Ton sang me lave, me purifie du péché. Ô agneau de Dieu, je viens. Je viens. Alors que toutes les têtes sont inclinées, tous les yeux fermés, tous les cœurs ouverts, permettez-moi de transmettre cet appel à tout le monde, à tous ceux qui sont dans cette salle, qui veut aujourd'hui consacrer entièrement sa vie au Seigneur et qui est prêt à faire tout le chemin avec lui. Qui est prêt à faire le pas du baptême biblique dans la foi, non pas avec des hésitations, non pas avec des craintes, non pas dans le doute, mais comme il est écrit, si tu crois, cela peut arriver. L'homme fit arrêter le char et tous deux entrèrent dans l'eau, Philippe et l'officier de la cour, et il le baptisa. Si vous croyez, croyez vraiment en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, comme votre Rédempteur et Sauveur, alors levez la main un instant pour que nous prions pour vous. Et en particulier dans ce cas, si vous êtes prêts, merci aussi à ceux qui se feront baptiser. Voulez-vous lever la main? Qui accepterait d'être baptisé? Qui? Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, je vois deux ou trois mains jusqu'à présent. Prions maintenant ensemble. Père Céleste, tu as tout entendu et tout vu. Ah, nous t'adorons, Dieu fidèle. Et nous prions tout particulièrement pour tous ceux qui ont été baptisés de manière non biblique, afin qu'ils laissent sortir le vieux levain, la vieille pâte, et ne se contente pas de penser en eux-mêmes, mon baptême est valable, mon baptême est valide. Non, il ne l'est pas, à moins qu'il n'ait été accompli de manière biblique. Ce qui est valable est juridiquement valable devant toi, le Dieu vivant, c'est ce que tu as laissé comme valable et juridiquement valable et donc comme obligatoire et contraignant pour ton Église. Seigneur bien-aimé, nous te confions tout et tous et te prions. Agis toi-même par la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit. Adoration et gloire à ton nom merveilleux et saint. Alléluia. 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 Amen. Amen. Amen.